Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 3 octobre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et dans cette émission, le journal Les Sports, la deuxième partie de l'interview avec trois cinéastes francophones sur leur documentaire Inferno Without Borders. Et ensuite, notre personnage de la semaine, ce sera Britney Spears. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce dimanche 3 octobre, une forte baisse de nouvelles infections de coronavirus en Nouvelle-Galles du Sud alors que l'État se prépare à rouvrir à partir de lundi de la semaine prochaine. Dans le Victoria, 1220 nouveaux cas locaux de Covid-19 et 3 autres décès ont été enregistrés. Et en sport, la grande finale de la NRL de ce soir à Brisbane aura lieu comme prévu. La Nouvelle-Galles du Sud a connu une forte baisse de nouveaux cas locaux de coronavirus avec 667 nouvelles infections, le nombre quotidien le plus bas depuis la mi-août. 10 autres personnes, toutes âgées de plus de 50 ans, sont décédées, tandis qu'il y a 981 cas de Covid à l'hôpital, dont un enfant de moins de 9 ans et 3 adolescents en soins intensifs. L'État devrait atteindre son objectif de vaccination à double dose de 70% d'ici le milieu de la semaine qui vient, ce qui signifie un assouplissement important des restrictions à partir de lundi prochain. Le ministre de la Santé, Brad Hazard, exhorte les gens à maintenir le cap, en particulier de ne pas se réunir illégalement lors de la grande finale de la NRL ce soir.
To have gone from 1599 cases just 3 weeks ago to 667 cases today has taken a lot of hard work, a huge amount of work. Please don't ruin that. Please don't let the side down. This is a game that we all must win. It's a game where we all have to be winners. We have to make sure that this virus does not get a hold and come back in the numbers that it could do very easily.
Le médecin-chef du Queensland a déclaré que c'était étonnant que l'État n'ait enregistré aucune nouvelle transmission communautaire ce dimanche. Il y a eu 2 cas locaux hier et tous deux étaient liés à des infections connues, dissipant les craintes concernant la transmission communautaire dans le sud-est du Queensland. Dr Janet Young a déclaré que la capacité de maîtriser les épidémies dans les premiers cas pourrait expliquer le succès de l'État à contenir les infections au cours du mois dernier.
And can I thank every Queenslander who's been involved, because it's astounding that we haven't seen community seeding, and that's due to the work done by Queenslanders every single day. You clearly know how to respond in a pandemic and you're keeping yourselves, your families and your communities safe.
Le Victoria a signalé 1220 nouveaux cas locaux de Covid-19. Les résultats proviennent de plus de 71 000 tests effectués hier. Il y a eu 3 autres décès ce dimanche. Cela porte le nombre total de cas actifs à 11 785 personnes après une augmentation record de 1488 nouvelles infections hier. Les nouveaux sites d'exposition de niveau 1 comprennent un certain nombre d'emplacements dans la ville régionale de Castlemaine, notamment des cafés, une garderie et le Kmart local. Les autorités du Victoria continuent de s'inquiéter des rassemblements sociaux illégaux et la police continue de lutter quotidiennement contre les manifestants anti-verrouillage et les manifestations contre le vaccin. La Tasmanie a enregistré son premier cas local de Covid-19 en 58 jours. Le cas, un adolescent a voyagé sur le vol Virgin Airlines 1364 de Melbourne à Launceston et il est arrivé vers 11h30 vendredi matin en Tasmanie. L'adolescent est allé directement de l'aéroport en quarantaine dans une maison familiale et s'est conformé à toutes les exigences des restrictions du Covid, notamment le port d'un masque dans l'avion et le test de Covid à l'arrivée à l'aéroport. L'aéroport de Launceston a été déclaré site d'exposition et 10 passagers qui ont partagé le vol ont été contactés. Le ministère de la Santé affirme que le risque reste faible, mais les personnes qui se trouvaient dans le hall des arrivées vendredi matin devraient s'isoler et contacter la hotline de la santé publique. L'ancien Premier ministre John Howard a déclaré qu'il aimerait que le trésorier de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, devienne le prochain chef de l'État. Dominique Perrottet est le favori pour succéder à Gladys Berejiklian après sa démission vendredi en réponse à une enquête pour allégation de corruption sur sa conduite. Dominique Perrottet ne s'est pas prononcé pour le moment, laissant le ministre de la Planification, Rob Stokes, comme le seul candidat officiel au second tour de mardi prochain. John Howard, qui réside à Sydney, a déclaré sur Sky News qu'il avait également une grande estime pour certains des autres candidats potentiels.
So in saying that I hope Dom gets the nod, I'm not being critical of them, but I do think his background, his experience as treasurer, and very importantly, his commitment to economic reform means that he is, of all of them, he is the best person to take over the helm.
Des milliers de militantes des droits des femmes sont descendues dans les rues à travers les États-Unis pour protester contre les récents efforts visant à restreindre l'accès à l'avortement. C'est la première marche des femmes sous l'administration Biden, une année où les législateurs et les juges conservateurs des États américains ont mis en péril les droits à l'avortement. La Cour suprême des États-Unis se réunira cette semaine pour examiner une contestation constitutionnelle d'une nouvelle loi du Texas qui interdit les avortements après environ 6 semaines. Le ministère américain de la Justice et les défenseurs des droits à l'avortement, y compris le procureur général du Michigan, Dana Nessel, soutiennent que la loi viole l'affaire historique de 1973, Roe contre Wade.
So it's incredibly important that we make sure that we uphold Roe v. Wade, and if that doesn't happen, we need federal protection under the law to make sure that women and doctors all around the state of Michigan and all around the United States are not literally imprisoned and are turned into criminals simply for exercising their right to choose.
Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est engagé à travailler très dur pour que son projet de loi sur les infrastructures et les dépenses sociales de plusieurs milliards de dollars soit adopté par le Congrès. Joe Biden s'est rendu au Capitole vendredi pour tenter de mettre fin à un combat entre les factions modérées et progressistes de son parti démocrate qui a menacé les deux projets de loi qui constituent le cœur de son programme national. S'adressant à des journalistes dans la cour de la Maison-Blanche, le président Biden a déclaré qu'il voyagerait bientôt à travers le pays pour promouvoir et obtenir le soutien de la législation. Il a reconnu que les pourparlers à Washington étaient devenus trop centrés sur les milliers de milliards de nouvelles dépenses et de taxes prévues dans le projet de loi.
Everybody's frustrated. It's part of being in government. Being frustrated. Hey, look, one of the things I love about you guys, I watch you today. Biden vowed he's going to do this. Biden commits. Biden's going to work like hell to make sure we get both these passed. And I think we will get them passed.
Les principaux objectifs d'un grand sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow en novembre ont été définis lors des pourparlers préalables à l'événement à Milan, en Italie. Le président du Royaume-Uni pour la COP26, Alok Sharma, a déclaré au sommet Youth for Climate qu'il y avait un consensus des délégués pour faire plus pour maintenir l'objectif de réchauffement de 1,5 degré Celsius à portée de main. Alok Sharma a promis que les décisions de la COP26 seront prise avec la voix des jeunes avant tout et en réponse aux critiques de jeunes militants du climat, plus tôt cette semaine, alors que Sharma a convenu qu'il devait honorer l'engagement de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays vulnérables à lutter contre le changement climatique.
We need to deliver on the 100 billion a year and you know I have said many times before and I repeat again that delivering on the 100 billion is absolutely a matter of trust. And of course, at this COP, we also need to start the discussion on what comes in terms of post-2025. But I think the delivery on the 100 billion is going to be vital.
Et en Australie, la sénatrice du Parti national dans le Victoria, Bridget McKenzie, a déclaré qu'elle n'était toujours pas convaincue que de la nécessité d'objectifs climatiques plus stricts pour l'Australie. Le gouvernement subit des pressions croissantes pour s'engager à atteindre des objectifs plus stricts avant le sommet sur le climat à Glasgow en novembre prochain. La coalition reste divisée sur la question, mais Sky News a annoncé que le Premier ministre Scott Morrison annoncerait cette semaine un nouvel objectif à moyen terme. Mais la sénatrice Bridget McKenzie a déclaré sur Sky News qu'elle n'avait vu aucun plan.
I can't confirm that.
Have you seen anything in terms of a longer term plan?
No, haven't seen a thing. You know, David Littleproud's been clear, hasn't seen a thing. We're on less than 4 weeks from Glasgow. Any modelling on the implications of this over the last decade has shown that it's regional Australia, our industries, and indeed the poorest in our country who will pay the price for a low emissions future.
Le Premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a déclaré que les États-Unis étaient, je cite, dans un état de choc et de confusion après la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans. Dans une interview à la télévision d'État turque, Imran Khan a déclaré que si les États-Unis ne débloquaient pas les monnaies afghanes, le pays pourrait faire face à une situation chaotique et que les États-Unis devaient trouver une solution. Imran Khan a déclaré que le gouvernement des États-Unis devra éventuellement reconnaître les talibans.
Sooner or later, they'll have to. At the moment, as you can see in the Senate hearing, in the media, there is a shock, confusion in the US. They are completely surprised by this outcome of after 20 years, Taliban coming back again. And there is at the moment finding scapegoats. I feel very unfairly targeting President Biden. I think it's unfair because what could he do?
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 19 également. Melbourne, 22. Hobart, 17. Canberra, 20. Sydney, 27. Brisbane, 31. Cairns, 32. Darwin, 33. Et à Alice Springs, maximal de 31 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 3 octobre. Une forte baisse de nouvelles infections de coronavirus en Nouvelle-Galles du Sud, alors que l'État se prépare à rouvrir à partir de lundi de la semaine prochaine. Dans le Victoria, 1220 nouveaux cas locaux de COVID-19 et 3 autres décès ont été enregistrés. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord cyclisme, le Paris-Roubaix de ce dimanche pour les messieurs. Mais hier, c'était la toute première édition des dames. Reportage Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale.
La petite ville d'Ornain, ces briques rouges typiques du nord de la France. Ici, les pionnières de Paris-Roubaix ont enfin rendez-vous avec l'enfer pavé. Ce premier secteur est avalé plein gaz par le peloton habitué à voir la course masculine. François et Alain sont impressionnés.
Très impressionnés, mais magnifique.
Elle roule mieux que certains garçons.
Très spectaculaire, un engagement physique que je n'imaginais même pas. Ça va très très vite.
Marlène Ross pour le team Allez BTC Ljubljana, prise en charge par le service médical de l'épreuve, abandon.
Ça va vite, parfois trop. Sous la pluie, le pavé humide envoie valser les acrobates. Elles ne seront que 61 sur 132 partantes à rallier Roubaix dans les délais. Le visage marqué, maculé de boue, Marie Lenette a l'impression d'être une survivante.
Sur la ligne de départ, je regardais les panneaux, je voyais première édition du Paris-Roubaix féminin. Je me dis, mon Dieu, on est toutes là. Et j'étais vraiment excitée de ouf. Et de me voir finir dans un état où j'arrive même plus à capter ce qui se passe, c'est vraiment une émotion de soulagement et de fierté qui tombe et qui me fait monter les larmes aux yeux parce que ouais, ça y est, c'est fini et j'ai réussi à le faire. J'y suis allée jusqu'au bout en un seul morceau. Quand on est dans les secteurs, on voit une chute, deux chutes, on voit des filles qui se relèvent pas. Et quand on est sur le vélo, on se dit, bah, ça se trouve, la prochaine fois, ce sera moi, mais j'ai pas envie de mourir aujourd'hui, j'ai pas envie de me faire mal. Donc après, on est un peu plus sur les freins, mais au final, quand on est sur les freins, il y a des efforts à faire en plus pour recoller les roues. Donc c'était vraiment dur mentalement et physiquement, ouais.
Même sensation pour sa coéquipière, Maëlle Grosse-Tête, en larmes, cuissard déchiré, genou ensanglanté. La Française avait des ambitions au départ de Denain. Mais elle aura vécu une journée galère, une journée en enfer.
Là, à froid, j'ai mal. Ça fait... Je suis bien arrachée, mais... Non, je me concentrais juste, j'avais même pas de compteur, rien, je connaissais le parcours. Et je me disais, roule, 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 le vélodrome, il va arriver. Et profite du public, quoi, autant que tu peux. Et c'est la beauté et la cruauté de cette course. Elle peut être un peu cruelle, mais...
Elles reviendront toutes en avril 2022 au cœur d'une saison qui verra aussi le grand retour du Tour de France féminin.
Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre le Paris-Roubaix en direct sur la télé SBS ce soir et on demand. On passe au foot en France. D'abord, il y avait deux matchs hier de la Ligue 1 avec la victoire de Nice qui est troisième au classement. Nice qui a battu Brest 2-1 et le nul entre Montpellier et Strasbourg. Un but partout. En Espagne, ça ne va plus pour le FC Barcelone, comme nous l'expliquent Pierre Chaperon et Cédric de Oliveira pour RFI.
Oui, avec un stade à guichet fermé, une première à Madrid depuis 18 mois et avec un trio qui a réglé le sort du match. João Félix, Thomas Lemar et Luis Suarez, tous les trois sur les deux buts de l'Atlético. João Félix au départ de chaque action. Sur la première, à la 23e minute, il passe à Suarez qui remet à Lemar qui marque du plat du pied en force. Sur le deuxième, à la 44e, c'est Lemar qui fait la passe à Suarez. Il entre dans la surface, fixe le gardien et marque. Suarez qui en a profité pour chambrer l'entraîneur du Barça en faisant mine de prendre un combiné de téléphone. Pour rappel, Coman a viré Suarez l'année dernière en moins d'une minute par téléphone.
Oui, en tout cas, Luis Suarez et le Barça qui enchaîne, qui enchaîne avec une deuxième défaite de suite.
Oui, et sincèrement, le Barça a cadré seulement deux tirs en ayant 70% de possession de balles. Si on prend la défaite 3-0 de mercredi contre le Benfica, ça fait deux tirs cadrés en 180 minutes. Le Barça n'a quasiment pas inquiété l'Atlético, indique ce soir Mundo Deportivo. Il y a eu quelques attaques de Memphis Depay, un tir pas assez appuyé en deuxième mi-temps de Coutinho et puis le Barça plombé par sa défense, complètement aux abois sur les deux buts avec des erreurs d'appréciation de ce que l'on appelle avec ironie ici les vaches sacrées. Piqué, Busquets dépassé ce soir, Piqué qui à la fin du match a reconnu être content que la pause internationale arrive, pointant du doigt le manque de puissance offensive du Barça. Au classement, l'Atlético est deuxième avec 17 points, le Barça dixième avec 5 longueurs de son adversaire du soir.
On passe en Angleterre maintenant pour la Premier League. Il y avait 6 matchs hier samedi et Chelsea a gagné, comme l'explique Cédric de Oliveira pour RFI.
Chelsea qui est seul en tête de la Première Ligue. Les Blues qui restaient sur deux défaites face à City et la Juventus Turin se sont ressaisis face à Southampton. Victoire 3-1 qui permet aux Londoniens de reprendre deux points d'avance sur Liverpool et Manchester United. Les Red Devils tenus en échec par Everton un partout malgré un but du français Anthony Martial. À noter que Cristiano Ronaldo et Paul Pogba ne sont rentrés qu'en cours de match. En tout cas, après une défaite face à Aston Villa et ce match nul, eh bien United fait du surplace et ça n'est pas vraiment du goût du portugais de United, Bruno Fernandes.
On ne regarde pas le classement parce qu'on ne gagne pas le championnat maintenant et on ne le gagnera pas lors des prochains matchs. Mais il est évident que nous devrions avoir plus de points. On ne devrait pas laisser filer des points à domicile. Nos deux derniers matchs ici en championnat n'ont pas été bons, on le sait. On doit faire mieux. On sait ce que cela représente de jouer pour Manchester United et ce que nous avons à faire. Si on veut un trophée en fin de saison, on doit faire beaucoup mieux.
Le portugais Bruno Fernandes déçu donc par ce résultat nul face à Everton. Suite de la 7e journée avec notamment le choc très attendu entre Liverpool et Manchester City à Anfield.
Et enfin on passe au Rugby Championship et la Nouvelle-Zélande, comme vous le savez, est championne de 2021. Mais hier, les All Blacks ont été battus 31 à 29 par les Springboks. Cédric de Oliveira et Tom Rossi pour RFI.
Your 2021 Rugby Championship champions, put your hands together for the All Blacks.
Les All Blacks, l'équipe néo-zélandaise de rugby à 15, a soulevé le trophée du Rugby Championship aujourd'hui, la compétition qui réunit les 4 meilleures sélections de l'hémisphère sud. Le sacre était assuré depuis une semaine et leur courte victoire contre l'Afrique du Sud. Les champions du monde qui, eux, ont déçu globalement cette année. Bonsoir Tom Rossi.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
On va parler donc rugby avec vous. Édition 2021 en deçà des attentes pour les Springboks, même s'ils finissent par une bonne note.
Mais une victoire de prestige contre cette équipe de Nouvelle-Zélande donc aujourd'hui. Et elle leur fait beaucoup de bien cette victoire Cédric parce que les champions du monde restaient sur 3 défaites de suite. Cela n'était plus arrivé depuis 5 ans. Leur jeu restrictif basé sur une défense très agressive et un jeu au pied quasi systématique a fait grincer des dents en Afrique du Sud ces dernières semaines. La 100e confrontation contre les All Blacks il y a une semaine justement était un parfait exemple de ce style minimaliste. Mais heureusement, cette fois, pour la revanche, c'était bien plus flamboyant. Un grand match de rugby remporté 31-29 après un final haletant. Succès acquis dans le temps additionnel qui redonne le sourire à Faf de Klerk, le demi-mêlé heureux de bien finir après ce tournoi compliqué disputé en Australie à cause du Covid-19 et terminé 3e sur 4.
Je suis très content pour les gars, ça a été un tournoi difficile. Nous vivons tous ensemble depuis un moment et je suis très fier des gars qui n'ont jamais lâché jusqu'à la fin. C'est le symbole de cette équipe, se battre jusqu'au bout. Et je pense que les remplaçants ont eu un énorme impact sur cette victoire. On leur doit beaucoup. La Nouvelle-Zélande, c'est une équipe très forte. C'est à chaque fois une rude bataille. Il n'y a eu seulement que 2 points d'écart sur les 2 matchs et je suis heureux qu'on ait remporté celui-ci.
Faf de Klerk au micro de la télévision sud-africaine. Lui et ses coéquipiers sauvent donc un peu les meubles avec cette victoire de prestige.
Elle vient laver l'affront du double revers contre l'Australie. Un revers pas digne de champion du monde. Cette Afrique du Sud-là, Cédric, ce n'est pas celle qui a remporté le mondial il y a 2 ans. C'est clair, c'est le sélectionneur Jack Nienaber qui le dit lui-même. Le fait de ne pas avoir joué le moindre match en 2020 à cause de la pandémie les a beaucoup pénalisés selon lui. Ils ont dû déclarer forfait lors de la précédente édition du Rugby Championship donc. Mais l'équipe progresse. À 2 ans de la Coupe du Monde en France, l'Afrique du Sud va défier le Pays de Galles, vainqueur du dernier tournoi Destination. L'Écosse, toujours en progression. Et l'Angleterre, qu'elle avait battue en finale de la Coupe du Monde en 2019. Un sacré programme.
Et puis un mot de la NRL en Australie, la grande finale. Ce dimanche soir, entre Penrith et South Sydney, ce match se déroulera à Brisbane. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. 13h28, vous écoutez SBS French et je passe maintenant l'antenne à mon collègue Bertrand Tungandamé pour la deuxième partie de la conversation avec Sandrine Charruyer, Sophie Lepovics et Laura Sivis. Elles parlent de leur film documentaire Inferno Without Borders.
Et puis vous me demandiez s'ils collaboraient. Donc oui, effectivement, les pompiers disent qu'ils connaissent ces techniques, ils savent que ça marche. Le problème, c'est de pouvoir les utiliser à grande échelle. Parce qu'on sait, bon, évidemment, c'est toujours le coût, c'est toujours où mettons l'argent, dans quoi le gouvernement met l'argent et qui suivre. Il y a énormément de rangers qui sont donc dans des communautés aborigènes qui essayent de faire un super travail et d'utiliser ces techniques traditionnelles qui sont de plus en plus connues, pas encore assez, mais les gens qui les connaissent, bah, se rendre compte qu'elles sont efficaces. Donc, voilà, donc il y a vraiment de l'espoir que ça se répande un maximum. Et c'est vraiment pourquoi on a écrit notre documentaire de la façon dont on l'a écrit, parce qu'on voulait mettre en avant et on voulait donner la voix aux communautés aborigènes pour qu'ils puissent nous en parler. Parce qu'en général, ils ne sont pas assez écoutés et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en avant.
Qu'est-ce que vous avez appris en faisant ce film?
On a des similarités, on pense un peu, mais c'est très intéressant que Laura donne son point de vue en tant qu'Australienne née ici, et moi en tant que Française qui suis arrivée après, ici sur les terres australiennes. J'ai un mari qui est australien. Quand j'ai commencé à lui poser des questions, qu'est-ce que tu sais des feux traditionnels? Il m'a dit, mais je ne sais rien du tout.
Moi j'ai la forêt australienne. Chez moi, je suis vraiment aux frontières d'une forêt. Et pendant que j'étais en France, pendant le tuer des forêts, j'avais peur que ma maison va brûler, quoi. Alors, moi, j'ai grandi auprès de la forêt et j'ai jamais entendu de cette méthode de feu traditionnel. En fait, on sait que c'est un feu traditionnel, mais on ne savait pas à quoi ça sert. On pensait que c'était comme un backburning habituel. Qui est fait par les pompiers. Mais là, c'est complètement différent parce qu'en fait, la terre ne se sèche pas. Il n'y a pas avec un feu de contrôle qu'on fait ici. Mais habituellement, en général, après le feu, il y a toutes les feuilles qui tombent par terre. Il y a autant de feuilles et tout ça par terre qu'il y avait après un mois, deux, trois semaines. C'est pareil. Mais avec le cool burning, il n'y a pas tout ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est efficace, parce que ça augmente pas le fuel.
Le carburant au sol. On va dire qu'en fait, tous les déchets, toutes les feuilles mortes,
oui, voilà,
sont un carburant pour les feux qui viennent et qui peuvent être dévastateurs. Et justement, le fait d'entretenir le sol et de nettoyer tout ça à feu doux, parce que si on fait à feu trop puissant, ça abîme le sol lui-même. Et donc, tout ce qui repousse à ces endroits-là n'est pas ce qui devrait se retrouver là. Et donc, le problème a été que la façon dont les feux ont été faits, on fait en sorte que la végétation qui renaît ensuite est une végétation qui aime les feux. Et plus on brûle à feu à température chaude, plus la végétation qui se retrouve est des végétations qui cherchent à avoir trop de chaleur, ce qui malheureusement détruit complètement tout. Je pense qu'il faut vraiment que vous regardiez le documentaire. Hein. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que les feux traditionnels sont des feux qui sont faits à des températures qui sont assez basses et donc ne détruisent pas tout. Tandis que les feux de prévention qui sont faits par les pompiers sont faits à des échelles beaucoup plus grandes et la chaleur est beaucoup plus forte. Et donc, elle détruit aussi le sol. Malheureusement, ça transforme en fait la végétation, ça transforme le paysage. Et il se retrouve à des endroits, à certains endroits, des végétations qui ne devraient pas se trouver là. Et qui permettent aussi au feu de monter plus haut à chaque fois dans les arbres et détruire les canopées complètement. Alors que quand il y a des feux traditionnels, ils sont faits à feu doux, ça respecte tout. C'est vraiment une approche holistique qui respecte les insectes, les animaux. Donc, ils font des feux doux, les oiseaux s'en vont, les insectes s'en vont. Et puis, quand les feux sont terminés, tout le monde peut réintégrer cet environnement. Tandis que quand les feux sont faits à trop grande dimension et de manière trop chaude, ben, tout est détruit Les animaux s'en vont, mais ne savent plus revenir, ils n'ont plus d'endroit pour revenir parce que tout est détruit. Et donc, tout est transformé. Et puis voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment garder cette approche holistique et respecter l'environnement, comprendre l'environnement pour pouvoir le respecter. Et c'est vraiment tout ça qu'on essaye d'expliquer à travers la voix de ces personnes extraordinaires qu'on a rencontrées, qui sont des experts en climat, la communauté aborigène qu'on a rencontrée nous ont vraiment ouvert les yeux sur énormément de choses. Et j'espère que ça sera partagé, que beaucoup de gens pourront...
Pour voir le film, ça va sortir dans le festival Melbourne Documentary Film Festival le 1er octobre, ça sort.
En fait, les gens doivent réserver leur ticket dès maintenant parce que le film sera montré qu'un seul jour, le 1er octobre. Et après ça, il n'est plus montré.
Il est plus disponible. Ouais.
Voilà, il n'est plus disponible. Donc, les gens ont vraiment que 2 ou 3 jours là pour pré-réserver leur ticket. Et ensuite seulement, ils ont 30 jours pour le voir, une fois qu'il est réservé. Mais voilà, donc ça, c'est la limite.
Et comment peuvent-ils se renseigner, avoir accès à ce film? Quels sont les liens, les sites sur lesquels il faut se connecter pour voir ce film?
Alors, c'est Melbourne Documentary Film Festival. Et c'est le site où se va tourner le premier.
Ouais.
Et après, on a quelques festivals internationaux aussi. Ouais. C'est en Brésil. C'est quoi les dates pour Brésil, Sandra?
Oui, il y a un autre festival qui nous a approchés, qui est dans l'idée de faire la promotion du changement climatique. Au Brésil, ils ont les mêmes problèmes qu'ici. Ils ont aussi beaucoup de feux. Et ils essayent de protéger leur environnement. Donc, il y a un festival qui s'appelle Filmiente. Et Filmiente nous a contactés et souhaiterait projeter le film dans leur festival, qui va avoir lieu aussi en ligne, comme Melbourne. Malheureusement, tous les festivals aujourd'hui ne peuvent offrir que cette plateforme à cause du Covid.
Ouais.
Seulement, c'est limité par territoire. Donc, au Brésil, seuls les Brésiliens peuvent voir le film. Et ici en Australie, pareil, seuls les Australiens peuvent voir le film.
C'est maintenant ou jamais. C'est festival documentaire de Melbourne. Allez pré-réserver votre billet.
Et quelles sont les choses les plus importantes que vous voulez que les gens retiennent de ce documentaire?
En fait, je pense que il y a deux sciences. Il y a la science occidentale et il y a la science traditionnelle. Nous étions là dans le passé et on a oublié notre passé. L'Australie est quelque part celui qui nous rappelle qu'il ne faut pas oublier 50 000 ans d'histoire et que la science, elle est là, retenue par les aborigènes et qu'il nous faut les écouter. C'est eux, nos professeurs, c'est pas nous. On a d'autres choses à leur enseigner et ils ont autre chose à nous apporter. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'agrémenter deux mondes en un et d'essayer de s'entendre et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire et ce qu'ils veulent nous partager. Aujourd'hui, ils sont dans le partage. Ils veulent communiquer, transmettre et éduquer. Et c'est à nous d'écouter, c'est au gouvernement d'écouter, c'est très important. Sinon, ça sera peut-être trop tard si on ne réagit pas maintenant et si on ne fait pas quelque chose dès maintenant. C'est encore temps, mais... Pour se dépêcher.
Effectivement, il y a leur sagesse qui peut être utilisée non plus seulement en Australie, c'est au niveau international parce que la forêt australienne et l'eucalyptus, c'était exporté dans plein de pays. C'est en Californie, c'est en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. En fait, ces grandes forêts eucalyptus, il n'y a personne qui sait comment maintenir ces forêts à l'étranger. Et cette sagesse du peuple aborigène d'Australie, ça peut être utilisé par des autres dans d'autres pays. Une sorte de chose que les gens à l'étranger peuvent utiliser aussi au niveau de compréhension, comment gérer leur forêt.
Ça a déjà commencé a priori. J'ai entendu une conversation avec Victor Stephenson, le gourou qui a remis en place les feux traditionnels à l'échelle internationale. Il est maintenant la communauté aborigène, la communauté Yuin, des Pajostic Alliance, sont sollicités au Canada par les Indiens du Canada qui ont oublié tout leur savoir parce qu'il n'y a plus d'anciens pour leur apprendre, leur réapprendre toutes les techniques qu'ils ont usées et oubliées. Donc, les aborigènes australiens sont là pour leur rappeler et leur montrer leurs techniques. Donc, effectivement, l'Australie a peut-être un rôle à jouer pour le monde entier, puisque nous sommes tous concernés par le même problème, le climat qui change, un problème climatique, un problème économique, politique, tout est lié. Mais peut-être sont-ils les sauveurs de demain ? C'est ce qu'on essaye le message qu'on essaye de montrer plus ou moins dans le film.
Il faut garder un esprit ouvert et vraiment écouter et essayer de se reconnecter à la nature parce qu'elle nous enseigne beaucoup. Vous allez voir, il y a Uncle Nook dans ce documentaire qui est exceptionnel et qui nous dit que si on est sur une terre malade, les humains sont malades. Si on veut guérir, il faut guérir notre terre, il faut vraiment la protéger. Et c'est maintenant ou jamais. On ne peut plus attendre. On a assez attendu et ça serait bien que l'Australie soit un exemple et se mette à bouger beaucoup plus parce qu'on a tout ce qu'il faut justement pour voilà, on a le soleil, on a le vent. On a tout, on a l'énergie nécessaire, il faut qu'il y ait des changements.
Bien comme chaque dimanche, nous revenons à présent sur un événement marquant de l'actualité et un personnage qui lui est associé. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Coup de projecteur aujourd'hui sur Britney Spears, la chanteuse américaine.
Britney Spears, oui, chanteuse, danseuse, actrice. Britney Spears a la carrière tumultueuse. Elle est aujourd'hui âgée de 39 ans et elle vient de retrouver sa liberté. Elle vient de gagner un long combat judiciaire pour se libérer de la tutelle de son père. Un tribunal de Los Angeles a décidé, mercredi 29 septembre, de retirer la tutelle qu'exerçait depuis 13 ans, depuis 2008, son père, Jamie Spears. La juge a reconnu que cette tutelle, cette contrainte juridique était intenable. Cette tutelle avait été mise en place à l'époque, à un moment où Britney Spears traversait une profonde dépression, des problèmes psychologiques. Mais depuis, elle n'avait plus aucune prise sur sa carrière, sur son business, sur sa vie privée. Son père étant allé jusqu'à installer des caméras dans sa chambre, chez elle, pour la surveiller. Et l'affaire, depuis des années, faisait la chronique des journaux. Cela fait des mois, des années que Britney Spears essayait de se libérer de cette tutelle. Et au fil des mois, elle est devenue, nous allons le voir, la porte-parole de toute une cause bien plus large aux États-Unis, celle de ces centaines de milliers de personnes. On parle d'un million de personnes qui, aux États-Unis, se retrouvent sous tutelle. Parfois, il n'y a pas le choix, mais parfois contre leur gré, des personnes mises sous tutelle par leur entourage, par leur famille, avec tous les abus de pouvoir que cela peut comporter. Toute l'Amérique s'est passionnée, en tout cas, pour cette affaire Britney Spears. Des manifestations de soutien, des artistes connus qui l'ont soutenue. Vous avez aussi plusieurs documentaires qui ont relaté ces derniers mois, qui ont été tournés, diffusés sur Netflix, la vie et le combat de Britney Spears. Le mouvement MeToo également, qui s'est rallié à sa cause. Précision tout de même, face à la pression populaire, le père de Britney Spears avait accepté début septembre l'idée de discuter avec le tribunal de la fin de cette tutelle, de revoir les conditions en tout cas dans lesquelles elle était exercée.
La médiatisation de cette affaire a même poussé le Congrès américain à réfléchir à une réforme du système de mise sous tutelle aux États-Unis.
Oui, le mouvement a généré une émotion considérable. Free Britney, hein, ce hashtag Free Britney qui a été repris partout sur les réseaux sociaux. Il y a eu cette audience où en larmes, la chanteuse reine de la pop a demandé qu'une enquête contre son père soit diligentée. Elle a dénoncé une tutelle abusive. Elle s'est confiée, elle a expliqué comment son père et tous ceux qui exerçaient cette tutelle géraient sa vie à sa place, jusqu'au choix de ses amis ou l'interdiction qu'elle avait, jusqu'à ces derniers jours, de se faire retirer un stérilet, le stérilet qu'elle porte, elle qui a deux enfants et qui exprime en vouloir d'autres. « Je veux juste reprendre ma vie, ça fait 13 ans et ça suffit », avait lancé en juin Britney Spears. Le 20 juillet, deux membres de la Chambre des représentants, en pleine affaire Britney Spears, ont donc déposé un projet de loi au Congrès pour que soit repensé le système de mise sous tutelle aux États-Unis pour que les individus concernés aient par exemple un droit de regard sur la personne désignée par la justice. Le projet de loi en question, il porte d'ailleurs le nom Free Britney Act, et Nancy Mace, élue de la Caroline du Sud, qui porte ce projet de loi, elle avait lancé « Si ce cauchemar lui arrive à elle », sous-entendu elle, Britney Spears, qui est une star mondiale, ça peut arriver à tout le monde. Et de fait, vous pouvez vous retrouver mis sous tutelle pour incapacité physique, défiance mentale, dépression. Britney Spears est tombée très bas, parfois, cible de la presse people, friand de ses phrases, que de sa vie sentimentale tumultueuse, débridée. Elle veut reprendre le cours de sa propre vie. Elle estime qu'elle en est capable. Elle veut être de nouveau libre de poster ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux, alors que ses comptes étaient contrôlés par d'autres. Et elle a célébré à sa façon la décision de la justice de ces derniers jours de retirer la tutelle de son père. Elle a publié jeudi un diaporama de photos sur les réseaux sociaux. On la voit sur l'un des clichés complètement nue, et d'autres photos topless, ces photos où l'on voit aussi son fiancé, le comédien d'origine iranienne Sam Asghari, plus jeune qu'elle, 27 ans. Ils sont ensemble depuis 2017, ils ont annoncé leur fiançailles il y a quelques semaines, des photos donc, et ces quelques mots de Britney Spears à propos des vacances qu'elle passe, s'amuser dans le Pacifique n'a jamais fait de mal à personne.
Au-delà de l'affaire en question, rappelez-nous un peu quelle a été la carrière de Britney Spears.
C'est une enfant star, toute jeune, elle écumait les plateaux de télévision, à peine ado, star des années 90. Elle qui est née en 1981, Britney Spears, à 11 ans, elle faisait partie des animatrices de l'émission Mickey Mouse Club. Elle a éclaté aux yeux du monde entier en 1998 avec son tube Baby One More Time, qui reste encore aujourd'hui l'un des singles qui a été le plus vendu dans le monde. Depuis le début de sa carrière, elle a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde, 34 millions rien qu'aux États-Unis, des records et des records de vente, mais aussi au début des années 2000, quand elle était au sommet de sa gloire, une cascade de récompenses. En 2000, Ops, I Did It Again. En 2004, le titre Toxic, qui lui vaut le Grammy Award de la meilleure chanson dance de l'année. Elle chante, elle danse, elle enchaîne les albums, les succès, avec bien entendu toutes les retombées financières qui vont avec et qui intéressent tout son entourage, tous ceux qui gravitent autour de la star. 9 albums studio depuis le début de sa carrière. Elle enchaîne donc les contrats, les succès, les tournées, un véritable tourbillon qui finira par l'emporter. Nous l'avons dit, au fil des années, la superstar mondiale s'est fait happer, broyer par ce système business, jet set, starisation, entre ses soirées people avec Paris Hilton, ses photos dénudées, la bataille juridique pour la garde de ses enfants. Elle a alimenté de plus en plus les unes de la presse people, traquée par les paparazzi en permanence, et elle s'y est perdue donc jusqu'à être mise sous tutelle de son père en 2008. Jugée incapable de gérer sa vie, 13 ans plus tard, elle en est sortie, elle en est libérée et une nouvelle ère s'ouvre pour elle, pour Britney Spears.
Merci Émile pour ce coup de projecteur sur le personnage de la semaine. Et en fin d'émission, on passe à un rappel des grands titres de ce 3 octobre. Une forte baisse de nouvelles infections de coronavirus en Nouvelle-Galles du Sud, alors que l'État se prépare à rouvrir à partir de lundi de la semaine prochaine. Dans le Victoria, 1220 nouveaux cas locaux de Covid-19 et 3 autres décès ont été enregistrés. Et puis en sport, la grande finale de la NRL de rugby, ce soir à Brisbane, qui aura bien lieu comme prévu après une menace de Covid-19. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Et on va vous laisser avec Stromae qui vous interprète « Alors on danse ». Belle fin d'après-midi, à bientôt. Alors on danse. Alors on danse. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.